La santé, c'est l'affaire de tous.
Merci d'être avec nous. Nous parlons santé sur Phare FM Montauban. Soyez les bienvenus. Toujours souriant, même sous la pluie. C'est notre docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien Laurent, bien qu'on commence à arriver le printemps là, le soleil commence à arriver doucement mais sûrement.
Exactement, et un anniversaire aujourd'hui pour toi Edmundo, tu es au courant?
Ah non, c'est l'anniversaire de qui?
C'est la 50e émission de La Santé, c'est l'affaire de tous, happy birthday.
Il faut qu'on souffle les bougies là, c'est bien.
Exactement, alors nous accueillons sans plus tarder ton invité, le docteur Sylvain Sanson, bonjour docteur.
Bonjour.
Pour vous présenter très rapidement, je sais qu'Edmundo va le refaire dans un instant. Vous êtes urologue à la clinique du Pont de Chaume et pour cette 50e émission, vous allez nous parler d'une maladie. Il s'agit du cancer de la vessie, le 7e cancer le plus fréquent. Preuve en est le chiffre de 13 000 nouveaux cas de cancer de vessie diagnostiqués en France en 2018, dont 81% chez les hommes selon le site de l'Institut National du Cancer. Les présentations sont faites. Docteur avec un S, je vous laisse l'antenne.
Merci beaucoup merci. Laurent. De toute façon, merci beaucoup Sylvain d'avoir accepté notre invitation. Déjà, bienvenue chez nous. Alors, normalement, on demande toujours, avant de commencer à attaquer les questions, que notre invité se présente. Est-ce que tu peux te présenter?
Donc, je suis le docteur Sylvain Sanson, je suis chirurgien urologue à la clinique du Pont de Chaume à Montauban, formé au CHU Rangueil à Toulouse. Et donc avec mes trois associés urologues, on prend en charge sur la clinique des Chaumes toutes les pathologies urologiques avec une nette prédominance des pathologies cancérologiques. C'est pour ça qu'on a convenu ce jour de parler du cancer de la vessie.
Parfait. Et déjà pour attaquer, est-ce que tu peux parler de c'est quoi le cancer de la vessie?
Comme l'a dit Laurent, le cancer de la vessie, c'est le septième cancer en termes d'incidence, tout cancer confondu. Le deuxième cancer urologique, juste derrière la prostate, qui est bien plus connu. C'est oui un peu plus de 13 000 nouveaux cas par an, un peu plus de 5 000 décès par an également, avec une nette prédominance de cas incidents chez l'homme, mais c'est quand même un biais de confusion, c'est en lien avec, on le verra plus tard, la consommation tabagique qui est historiquement plus importante chez l'homme. Et c'est surtout une pathologie qui est méconnue du grand public, clairement moins médiatisée que ce qu'a pu être la prostate ou le cancer du sein chez la femme avec ce qu'on connaît très bien, c'est-à-dire Octobre Rose, entre autres.
Et d'ailleurs, tu as parlé effectivement du tabac. Est-ce que tu peux décrire quels sont les facteurs de risque du cancer de la vessie?
Alors, le cancer de la vessie, le principal facteur de risque, c'est très clairement l'intoxication tabagique. On en a d'autres bien sûr, mais qui sont quasi insignifiants par rapport à la place que prend le tabac. On a les amines aromatiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, enfin toutes certaines expositions professionnelles que nos collègues médecins du travail connaissent bien et pour lesquelles il y a un dépistage qui est organisé. Mais le principal facteur de risque, c'est l'intoxication tabagique. Les gens sont capables de dire que le tabac est mauvais pour le poumon, mais beaucoup moins que le tabac est très très mauvais pour l'urothélium, en fait, le revêtement de l'appareil urinaire. Parce qu'on pourra en discuter un petit peu plus tard, mais objectivement, le cancer de vessie est un cancer qui est ce qu'on appelle le carcinome urothélial, touche tout le revêtement de l'appareil urinaire, donc ça peut toucher également les uretères et le pied long, c'est-à-dire la poche qui recueille les urines au niveau des reins.
Tu as parlé du tabac par rapport à la prédominance de sexe, mais est-ce que si on enlève cette histoire du tabac, est-ce que on peut parler d'une prédominance chez l'homme ou effectivement
Non, c'est pareil. C'est un biais de confusion en fait. Historiquement, l'homme consommait plus de tabac que la femme, d'où la différence d'incidence. On le voit très bien d'ailleurs parce que en termes d'évolution de l'incidence, l'incidence chez la femme est en nette progression, plus importante que chez l'homme, justement parce que on voit arriver en fait les cas en lien avec l'augmentation du tabagisme de la femme sur la génération précédente.
Quels sont les symptômes d'un cancer de la vessie pour nos auditrices, nos auditeurs? Quels sont les signes d'alerte devant faire consulter?
Alors, le principal signe d'alerte, et de toute façon, ce sera réabordé, je pense, au mois de mai, parce que depuis maintenant quelques années, le mois de mai est le mois choisi par l'Association française d'urologie pour faire de la sensibilisation en lien avec le cancer de la vessie. Donc, on est clairement dans le thème. Le principal symptôme, c'est l'hématurie macroscopique, c'est-à-dire le saignement, c'est-à-dire l'émission de sang dans les urines. Ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs, c'est que une hématurie, un saignement dans les urines nécessite de consulter un urologue. Voilà, pour avoir un bilan. Il y a un nombre important hein, de causes qui peuvent entraîner un saignement dans les urines, et des causes tout à fait bénignes, mais un saignement dans les urines nécessite un bilan afin d'éliminer un éventuel cancer de vessie.
Est-ce que tu peux parler des types de cancers de la vessie ?
Oui. Alors, on parle de cancer de vessie, mais il y a plusieurs stades, en fait, hein, qui sont identifiés en fonction de l'infiltration ou non de la paroi musculaire de la vessie par la tumeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, initialement, le cancer de vessie prend la forme d'un polype et que ce polype, plus on le laisse se développer en l'absence de symptômes, par exemple, plus les racines vont devenir profondes et vont finir par toucher le muscle de la vessie. Et cette distinction est majeure parce que une tumeur de vessie qui n'infiltre pas le muscle se traite relativement facilement avec des gestes qui sont peu lourds par rapport à ce qu'il faudra réaliser en cas d'infiltration du muscle vésical par ce polype.
D'accord, c'est-à-dire que tu parles souvent l'étage d'action au niveau traitement va jouer si le muscle est touché ou pas de la vessie.
Exactement. Et en termes de lourdeur, ce sont vraiment deux mondes différents en ce qui concerne les traitements. Et en termes de pronostic également, parce que le pronostic d'une tumeur de vessie infiltrant le muscle est très clairement un des plus sombres que l'on ait dans la cancérologie urologique.
Et est-ce qu'on peut parler d'une âge de prédominance par rapport à l'âge du cancer de la vessie ?
Non, c'est en termes de nouveaux cas, c'est chez les plus de 60 ans. Mais voilà, il n'y a pas de prédominance par rapport à ça.
Et ça dépend aussi si le cancer est diagnostiqué précocement ou pas. Mais oui. Est-ce qu'on peut guérir d'un cancer de la vessie ?
Oui. Alors, on guérit dans des proportions bien plus importantes lorsque justement, ce que je te disais, la tumeur n'infiltre pas le muscle vésical, hein, une tumeur vésicale non infiltrante, le taux de guérison est bien moins bon, nettement moins bon, lorsque le muscle est infiltré.
Est-ce que tu peux effectivement situer un peu l'espérance de vie dans le cas où effectivement est diagnostiqué rapidement, mais que ça touche quand même une partie du muscle, par rapport au patient qui malheureusement arrive déjà avec une tumeur qui touche déjà la partie musculaire d'une façon importante.
Alors ça, c'est très dépendant des traitements qu'on va pouvoir réaliser. Les choses sont d'ailleurs en train de changer hein, avec cette année la publication de résultats d'une étude qui était très attendue qui a montré les résultats de nouvelles thérapeutique, un type de chimiothérapie vectorisée associée à l'immunothérapie, qui ont permis d'avoir des résultats qu'on avait jamais vus, en tout cas jamais depuis que j'ai commencé l'urologie. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que lorsqu'on a une tumeur infiltrante de vessie, le traitement de référence, qu'on appelle le gold standard actuellement, c'est de réaliser une chimiothérapie néo-adjuvante, c'est-à-dire que l'on fait avant le traitement chirurgical, suivi d'une chirurgie lourde qui consiste en une cystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vessie. La chimiothérapie n'est pas toujours faisable en fonction de l'état général du patient. On sait que si on fait de la chimiothérapie, le résultat est bien meilleur. Donc, en fait, c'est très patient dépendant en lien avec ses comorbidités et le traitement qu'il peut encaisser, en fait.
Tu as parlé effectivement de l'ablation de la vessie, la cystectomie, mais comment on peut vivre sans la vessie, quelles sont les différentes techniques de dérivation urinaire après effectivement cette cystectomie, cette ablation de la vessie.
Alors, on peut très bien vivre sans vessie. La question qui se pose, c'est la dérivation. C'est-à-dire, que fait-on des deux uretères qui viennent des reins et qu'il va bien falloir mettre quelque part? Alors, pour ça, il y a grosso modo trois grandes méthodes. La plus simple et la moins à risque de complications consiste à mettre les deux uretères directement à la peau et réaliser donc des stomies urinaires. Ça nécessite d'avoir deux poches de stomie urinaire. C'est ce que l'on réserve aux patients âgés ou avec des comorbidités importantes qui ne seraient pas en mesure d'avoir des techniques de reconstruction plus lourdes. On a également une technique intermédiaire qui s'appelle la dérivation urinaire non continente transiléale de type Bricaire, qui consiste à prélever un segment dizaine de centimètres d'intestin grêle, dit Léon, et de coudre les deux uretères à ce petit bout d'intestin, et ce petit bout d'intestin le coudre à la peau pour avoir une seule poche urinaire et non deux, comme sur la première technique. C'est un geste un peu plus lourd, qui est fait de manière très très courante. Et en dernier lieu, pour les patients jeunes en très bon état général, on a la possibilité de reconstituer une vessie toujours à base d'intestin, à base d'iléon, en prélevant une longueur bien plus importante, hein, de l'ordre de 60-70 cm. Et à l'aide de coutures un peu complexes, on peut reconstituer un réservoir qui sera cousu aux deux uretères et à l'urètre pour permettre au patient ou à la patiente d'uriner à nouveau par les voies naturelles d'une manière peu ou prou similaire à ce qui se passait avant qu'on lui enlève la vessie.
On habite dans une région où il y a beaucoup d'agriculteurs, qu'on utilise des produits. Est-ce que on voit par rapport aux autres régions, est-ce que tu vois une incidence ou une prédominance de cancer de la vessie ici par rapport aux autres régions de France? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Ou est-ce que c'est pareil?
Je voudrais pas te mentir et j'ai pas de données précises par rapport à ça. On n'a pas l'impression, quand on discute avec nos amis toulousains qui sont dans avec une patientèle moins rurale, on n'a pas l'impression qu'il y ait de grosses différences. On a récemment eu la validation de l'adénocarcinome prostatique, du cancer de prostate, en lien avec certains pesticides. Il n'est pas impossible que ce soit quelque chose qui soit mis en évidence dans les années futures pour la vessie.
Par exemple, pour nos auditrices, auditeurs qui nous écoutent, supposons qu'ils se rendent compte qu'il y a du sang dans les urines, quel est le cheminement à faire? Est-ce qu'il faut passer forcément par le médecin généraliste ou est-ce qu'il faut aller directement aux urgences pour se consulter? Qu'est-ce que tu conseilles?
Alors, actuellement, pour consulter un médecin spécialiste, un urologue ou autre, ça nécessite de passer par le médecin traitant. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Après, si on a un saignement urinaire très important avec des émissions de caillots de sang, là, il faut d'emblée consulter aux urgences parce que c'est une urgence médicale en soi. Et là, à ce moment-là, vous aurez un avis urologique, bien évidemment. Et probablement une hospitalisation aussi pour prendre en charge le saignement.
Tu as parlé effectivement de la question de l'immunothérapie, des nouveaux traitements qui arrivent. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de faire, qui tu penses qui pour l'avenir pourront changer effectivement la question de la qualité de vie des patients, la survie, à la partie chirurgicale ou la partie traitement de base?
La survie, clairement, le futur, ça va être la chimiothérapie vectorisée, qui est, alors je ne sais pas si c'est un concept dont vous avez déjà discuté dans l'émission, mais c'est lier une molécule de chimiothérapie à un anticorps quelconque qui va cibler une cellule particulière. Donc, au lieu d'avoir cette molécule de chimiothérapie injectée dans le sang qui va agir sur la totalité des cellules du corps avec les effets indésirables qu'on peut connaître, on aura la même molécule de chimiothérapie qui ira préférentiellement sur les cellules qu'on aura ciblées. C'est quelque chose de nouveau. Ça arrive également avec la radiothérapie vectorisée. C'est clairement quelque chose qui change la donne pour le cancer de la vessie au vu des derniers résultats de l'étude qui ont été présentés dans les derniers congrès internationaux où en termes de survie, c'est quasiment doublé. Hein. Donc, l'avenir immédiat, ou en tout cas dans les prochains mois en ce qui concerne le cancer de vessie infiltrant le muscle, hein, je parle de tout ce qu'on a, j'insiste bien sur le fait que tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent, c'est le cancer infiltrant, hein, pas le cancer non infiltrant. Ce qui va arriver chez nous, c'est la chimiothérapie vectorisée associée à l'immunothérapie un peu plus classique qu'on utilise déjà dans d'autres indications.
Tu as parlé effectivement de la question du tabac pour le cancer de la vessie, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs, par exemple le diabète, l'activité physique ou l'alimentation, qui peuvent jouer un rôle au niveau du cancer de la vessie?
Alors oui, c'est rapporté. On sait que la sédentarité, le syndrome métabolique, enfin c'est toutes ces choses-là peuvent avoir un impact. En tout cas, ce sont des impacts statistiques. On sait que bon, les régimes alimentaires équilibrés, type méditerranéen, protègent de plein de choses, dont ces tumeurs. Ça reste à la marge par rapport à l'impact du tabac et de certains produits chimiques qu'on a brièvement abordés en début de discussion.
D'accord. Est-ce que par rapport au cancer de la vessie, il y a d'autres points que tu penses que c'est important qu'on n'a pas abordé, que tu souhaites parler avec nos auditrices, nos auditeurs?
Oui, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que une symptomatologie urinaire anormale, quelle qu'elle soit, le saignement d'autant plus, mais une symptomatologie urinaire anormale nécessite de consulter. Les examens que vous serez amené à réaliser ne sont pas des examens d'une grande lourdeur ou d'une grande pénibilité, et ça peut permettre de changer, de transformer complètement le pronostic d'une maladie. C'est-à-dire que imaginez un petit peu la situation, un polype de vessie non infiltrant, ça peut être réséqué par les voies naturelles sous anesthésie loco-régionale, un peu comme une coloscopie, nécessiter une nuit ou deux nuits d'hospitalisation, et après une surveillance en consultation avec des fibroscopies pour s'assurer que ça ne repousse pas dans la vessie, mais sans plus, sans chimiothérapie, sans chirurgie lourde, voilà. Donc, quand c'est diagnostiqué tôt, parce que ça peut pas véritablement être dépisté, sauf chez les personnes qui ont été exposées d'un point de vue professionnel, qui elles sont dépistées, quand c'est diagnostiqué suffisamment tôt, ça se prend très, très bien en charge, même si ça reste les polypes ont une fâcheuse tendance à repousser, mais ça reste en termes de survie un excellent pronostic.
Parfait. C'est vrai que si on fait ces choses correctement et précocement, on peut éviter le pire. Et simplement, pas pour finir avec le pire, quels sont les organes quand tu as une métastase de cancer de la vessie, malheureusement, quels sont les organes les plus touchés?
Souvent par ce qu'on appelle des adénomégalies, donc ce sont des ganglions hein, qui sont envahis par les cellules tumorales qui ont quitté la vessie. Et puis on a classiquement des métastases osseuses, des métastases hépatiques et des métastases pulmonaires qui rendent le pronostic relativement sombre. Ouais.
Parfait. Bon, Sylvain, un grand merci parce que c'est vrai que c'est dommage de laisser traîner quelque chose qu'on peut quand même guérir. Hein. C'est très important. C'est très important les choses que tu as dit. Est-ce qu'un dernier mot pour nos auditrices, nos auditeurs, quelque chose un message à garder? Bon, tu as déjà parlé effectivement que c'est facile à traiter, il faut prendre précocement. Mais avant de passer l'antenne à Laurent, est-ce que tu as un dernier mot à parler à nos auditrices, nos auditeurs?
Oui, dernier mot, c'est donc juste ce qu'on a dit, hein, redire ce qu'on a dit, c'est-à-dire en cas de symptômes, consultez votre médecin traitant, puis consultez un urologue. L'Association française d'urologie va communiquer sur ce sujet sous la houlette du professeur Yann Nozillet, qui préside le comité VESI du CCAFU. Vous pouvez, si vous êtes intéressé par la question, vous rapprocher du site internet de l'AFU pour avoir de l'information grand public bien faite et bien adaptée. Donc n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à consulter si vous avez un quelconque symptôme.
Voilà, pour nos auditrices, nos auditeurs, la AFU, c'est la Société Française d'Urologie, comme Sylvain a bien dit. Vous pouvez trouver tous les renseignements qui vous le souhaitez. Et effectivement, n'hésitez pas à poser des questions à votre médecin traitant si vous avez des questions, et à consulter rapidement si vous voyez des symptômes, principalement du sang dans les urines. Un grand merci beaucoup pour ton temps, Sylvain. Tu sais que l'antenne de Phare FM est toujours verte. Tu viens quand tu veux parler d'un autre sujet. Tu es toujours le bienvenu, et merci beaucoup pour ton temps et pour ta disponibilité.
Merci à vous pour l'invitation.
Je te passe l'antenne, Laurent.
Merci Edmundo, merci Docteur Sanson. Je rappelle que si cette émission vous a plu, vous pouvez la réécouter ou la partager. Elle est disponible en podcast sur notre site www.farfm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.